Le journal est présenté par Sophie Delpont.
Bonjour à tous et on part tout de suite au Brésil après le rejet de la candidature de Lula par le tribunal supérieur électoral hier. Le parti des travailleurs est divisé sur la stratégie à adopter. Faut-il tenter d'imposer par un ultime recours la candidature de l'ancien président, grand favori, actuellement en prison pour une peine de 12 ans de corruption, ou bien faut-il mettre en avant un autre candidat pour l'élection présidentielle? Il reste seulement 10 jours pour se décider. Anne Vigna nous appelle de Rio de Janeiro.
Le jour d'après, le vote du tribunal supérieur électoral mettant fin à la candidature de Lula, la gauche brésilienne était comme sonnée. Même si la décision de la justice n'était pas une surprise, le parti des travailleurs a du mal à rebondir. La gauche a désormais 10 jours pour présenter un autre candidat, mais samedi, les ténors du parti répétaient un même discours. Lula est toujours notre candidat puisqu'il reste encore des recours sur sa condamnation devant les tribunaux supérieurs. Pourtant, ces tribunaux supérieurs n'ont montré aucune clémence envers le sort de l'ancien président et il est peu probable qu'il change d'avis à quelques semaines de la présidentielle. Une autre aile du parti insiste pour au contraire lancer au plus vite la candidature de son vice, Fernando Haddad, qui parcourt déjà le pays pour faire exister la campagne de la gauche. Lancer Haddad permettrait à la gauche de participer au débat présidentiel télévisé où elle est absente à cause d'une décision de la justice. Haddad a prévu de se rendre dès ce lundi à Curitiba, où Lula est emprisonné, pour décider ensemble d'une stratégie. Cet ancien maire de São Paulo pourrait être au second tour de l'élection présidentielle s'il bénéficie d'une partie du capital politique de l'ancien président. Mais il est bien moins connu que Lula et il a besoin d'apparaître au plus vite dans les médias pour rattraper son retard. Haddad n'avait que 4% d'intention de vote dans les sondages avec Lula. Mais sans son mentor, il monte à 15%.
Anne Vigna au Brésil pour France Culture. Le Pentagone veut réaffecter 300 millions de dollars d'aide au Pakistan vers d'autres priorités urgentes selon un communiqué. L'armée américaine accuse les autorités de ne pas mener d'action décisive contre les combattants islamistes. Le Pentagone fait pression pour qu'Islamabad sévisse contre ces groupes armés qui lancent des attaques en Afghanistan à partir de zones de non-droit le long de la frontière entre les deux pays. En Grèce, les migrants continuent d'affluer. 1800 personnes ont accosté au mois d'août sur l'île de Lesbos, alors que le gouvernement grec multiplie les contrôles envers les ONG sur place. Parmi les opérations, la police a mené 30 interpellations et 3 arrestations de volontaires de l'ONG ERSI qui participent à des sauvetages en mer autour de l'île, les accusant d'aide à l'immigration illégale. Une manifestation de soutien a eu lieu hier devant le Parlement grec à Athènes. Angélique Kourounis.
Une bougie et une rose pour chaque membre de leur famille mort dans la traversée vers l'Europe. Les réfugiés qui ont perdu un de leurs ont tenu à manifester leur soutien aux ONG qui leur viennent en aide en Grèce. Pour beaucoup, elles pallient aux défaillances de l'État. Sorab, réfugié syrien, a perdu la plus grande partie de sa famille dans cette traversée.
Ma sœur, mes frères, mes cousins et tous les autres auraient pu être sauvés. Je leur avais dit qu'en appelant le 112, des secours arriveraient. Ils y ont cru, mais personne n'est venu.
Pour tous ces manifestants, les récentes arrestations à l'île de Lesbos, des bénévoles qui viennent en aide aux réfugiés, bénévoles accusés d'espionnage et de participation à une organisation criminelle, passible de prison à vie, ne sont rien d'autre qu'une criminalisation de l'aide humanitaire. Pour Marianne, réfugiée syrienne qui a perdu son frère de 7 ans, limiter les ONG, c'est mettre en danger la vie des réfugiés.
I want everyone to stay with me, to ask.
Je fais appel à vous tous pour poser avec moi cette question. Pourquoi n'ont-ils pas sauvé nos familles? Il ne s'agit pas que de nous, ça pourrait être n'importe qui. Est-ce que tous ceux qui viennent de Syrie ou d'Afghanistan pour échapper à la mort doivent s'attendre à vivre la même chose, périr sans l'aide de personne?
Parmi les 3 bénévoles emprisonnés de l'association ERSI figure Sarah Mardin, réfugiée syrienne, célèbre pour avoir mené à bon port, grâce à ses compétences de nageuse, le bateau en difficulté qui les amenait de Turquie à Lesbos en août 2015, avec 18 autres personnes à bord.
Angélique Kourounis pour France Culture. Alors qu'en Allemagne, 9 personnes ont été blessées en marge de manifestations hier soir, plus de 8000 personnes ont défilé dans les rues de Chemnitz, dans l'est du pays. Cette ville de Saxe est depuis une semaine l'épicentre de la mobilisation de l'extrême droite allemande contre les étrangers, après un meurtre dont un demandeur d'asile irakien est suspecté. 2 cortèges hier se sont succédés, l'un à l'appel de l'extrême droite, 6000 partisans de l'AFD et du groupe anti-islam Pegida, et l'autre à l'appel des formations de gauche pour dénoncer un rassemblement raciste. Reportage à suivre dans le journal de 9h sur France Culture. En France, où en est l'extrême droite un an après l'éclatement du Front National? Alors que Florian Philippot, l'ex numéro 2 du FN, fait sa rentrée politique aujourd'hui à Forbach pour un meeting en plein air, le président des Patriotes a quitté le FN, devenu Rassemblement National il y a un an. Qu'est-ce qui a changé depuis au sein du parti de Marine Le Pen? On fait le point avec Maxence Lambrecq.
En apparence, peu de choses ont changé depuis le départ du numéro 2. Il espérait emmener avec lui des dizaines d'élus comme Bruno Maigret en son temps et finalement seuls 2 députés et une petite trentaine de conseillers régionaux l'ont suivi. Le RN a donc gardé sa structure mais pas son audience. Florian Philippot, c'était l'homme politique le plus présent dans les médias, une force de frappe que Nicolas Bay et Sébastien Chenu par exemple n'ont toujours pas acquise. Le RN est moins audible, il est aussi plus brouillon. Quand les communiqués de presse ressemblent à des pavés indigestes, on voit bien que Florian Philippot n'est plus derrière avec ses ciseaux. Chacun écrit ce qu'il veut et ce n'est pas toujours très lisible. Reste une question, Marine Le Pen a-t-elle retrouvé un conseiller de l'ombre, un puissant bras droit? Oui, et elle n'a pas cherché bien loin. Il s'agit de son beau-frère, Philippe Olivier, un ancien maigrettiste très préoccupé par l'immigration et les questions identitaires. Ce n'est pas un hasard, si Marine Le Pen ne cesse d'en parler, il est devenu en peu de temps son principal conseiller, celui en qui elle a toute confiance. On verra jusqu'à quand.
Les couacs continuent autour du prélèvement à la source. Le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a admis hier matin que l'arrêt de cette mesure n'était pas exclu avant de déclarer sur Twitter que la phase de test avait permis d'identifier et de corriger les erreurs en réaction à une publication du Parisien. Le journal publiait une note hier montrant que le test avait révélé de très nombreux bugs, évoquant jusqu'à 350 000 erreurs en un seul mois, avec le risque de prélever plusieurs fois les contribuables. Un grand ciel bleu toute la journée sur la majorité du territoire, température comprise entre 17 et 28 degrés au plus fort de la journée.